Faem Abbès, je suis très heureux de vous retrouver après avoir vu un échantillon des spectacles que vous donnez notamment au Festival du Conte de Chigny. Alors, vous êtes dans la catégorie et dans le pays Belgique, mais vous êtes d'origine kabyle et il y a une dimension comme ça multiculturelle qui est chantante dans ce que vous nous donnez comme conte.
Oui, voilà, donc je suis comme on définit aujourd'hui, j'ai trouvé ça amusant, un Belge exotique. Donc, ce qui veut dire, donc je viens d'Algérie. Hein, l'Algérie, c'est la rive sud de la Méditerranée, et je suis d'origine kabyle. Alors, les kabyles sont qui ? Sont les premiers habitants d'Algérie et les berbères d'Afrique du Nord. Et donc, moi, je raconte des histoires de cette région-là. Alors pourquoi ? Parce que je les ai entendus moi quand j'étais petit. Ma mère me racontait des histoires, mon père, mon grand-père. Pourquoi ? Parce que chez nous c'est vraiment culturel, c'est une tradition qui ne s'est pas perdue. Donc vraiment c'est vraiment une transmission ici de bouche à oreille d'histoires que moi j'ai entendues étant petit.
Alors on dit que le conte c'est un langage universel, mais il prend chaque fois des origines dans le très local. Est-ce que vous partagez cette impression ?
Oui, effectivement. Alors dans l'histoire que vous avez entendue, c'est une histoire qui ressemble...
Dites-nous en deux mots l'histoire, pour ceux qui ne l'ont pas entendu.
Pour ceux qui ne l'ont pas entendu, donc c'est l'histoire de Siziri. Siziri, c'est clair de lune. Et donc, elle a un grand-père qui habite en dehors du village, à la limite de la montagne, et tous les jours, elle va lui apporter sa galette, famthunt, et sukso, le couscous, et une cruche d'eau. Et donc, elle rencontre sur la route, et elle croise un ogre, et etc., 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 ce qui ressemble très fort au petit chaperon rouge. Alors, la particularité, donc ça, c'est le côté universel. La particularité, c'est que chez nous, petit chaperon rouge, eh bien, il croise l'ogre et la sorcière. Et donc, il y a une très forte relation entre, et là, c'est pas une grand-mère, c'est un grand-père. Et c'est une... Donc voilà, c'est ça vraiment les particularités au conte que vous avez entendu. Alors, il faudra avoir plus de temps pour analyser, comprendre pourquoi les personnages sont changés, différents.
Mais on a le temps, allez-y.
Bien, alors, l'ogre, je dirais que c'est vraiment la partie sauvage de la petite fille. C'est un peu ce que ça représente. Et la sorcière, là, c'est encore plus profond au niveau d'une partie féminine, intuitive, qui connaît, je dirais, les secrets de la nature. Et donc, la petite fille, elle va affronter ses démons, on peut dire intérieurs, si on peut l'appeler ça comme ça. Et ensuite, pas pour les détruire, mais pour les rencontrer et pour les apprivoiser. Même si dans l'histoire, l'ogre est brûlé, mais il renaît sous la forme d'un grand chêne, donc il est sublimé dans sa connaissance. Donc voilà, ça c'est une petite analyse rapide faite de l'histoire.
Est-ce que ce n'est pas je réagis à chaud parce que je ne connaissais pas avant l'interview l'analyse que vous alliez faire, est-ce que ce n'est pas une analyse très occidentale de quelque chose qui au départ n'est pas aussi métaphorique?
Alors effectivement, l'analyse est tout à fait occidentale. Nous, quand on raconte ça chez nous, l'ogre existe vraiment, la sorcière existe vraiment. Et pour moi, quand j'étais petit, ça existait toujours. Et ma mère me disait avant, les animaux, ils parlaient aux hommes. Et c'était une réalité. Donc l'ogre, il existe toujours dans notre réalité quotidienne. Là-bas, il existe dans l'esprit. Donc c'est quand on raconte ces histoires-là, on les analyse pas, on les raconte. Et c'est ça qui fait leur force. Et aussi pour moi, la puissance vraiment du conte. Après, l'analyse, elle devient rationnelle, elle devient beaucoup plus intellectuelle. Mais parfois, elle est nécessaire. Pas quand on raconte, mais quand on essaie de comprendre ce qu'on raconte. Et très souvent, moi, je comprends plus profondément les contes que je raconte après les avoir racontés 10, 20, 30, 40, 50 fois, parce que au matin, je me réveille et ah, tiens, il y a cet aspect-là du conte qui est éclairé et tiens, j'ignorais ça. Donc, j'ai pas une approche intellectuelle, j'ai plutôt une approche sensitive et artistique, dans la mesure où comment, moi, je vais pouvoir, avec la force que j'ai, faire passer, faire vivre cette réalité. Le conte existe, c'est pas une histoire pour enfants.
On dit parfois, lorsqu'on donne à lire un livre, un roman ou une nouvelle, que le lecteur réécrit le livre. Est-ce qu'on peut dire que lorsqu'un auditeur dans le public écoute un conte, il le réinvente pour lui, comme vous me dites que vous le réinventez pour vous lorsque vous le dites?
Si je me place comme auditeur, comme spectateur d'une histoire, je pense qu'effectivement, tous les spectateurs voient le même spectacle de conte, écoutent la même histoire, mais le conte résonne en nous différemment. Donc c'est un peu comme un diamant éclairé par la lumière, en fonction de la position où on se trouve, par rapport au diamant, on verra des aspects du conte. Et je pense que c'est un peu ça. Donc le conte, c'est le diamant, et nous, en fonction de ce qu'on est placé dans notre vie, dans notre parcours, dans nos caractères, on verra et on comprendra, il résonnera différemment.
Est-ce que vous pourriez nous dire, Fahim Abbès, quel est votre parcours personnel qui vous a conduit au conte ? Quels sont les éléments dans votre biographie, enfin vous êtes très jeune, donc, enfin dans votre jeune biographie, qui ont fait qu'à un moment donné vous vous êtes dit, tiens, je choisis cette option-là de raconter des histoires ?
Alors, merci pour le compliment. Donc, j'ai quand même 45 ans aussi. C'est jeune, mais c'est plus 25 ans. Merci. Alors, et puis, bon, alors le parcours, c'est quoi ? Alors, moi, il y a des choses qui m'ont surprise. C'est que, pour moi, le conte, c'était vraiment quelque chose de naturel. Donc, moi, j'ai entendu ces histoires petits. Et donc, ce n'est que beaucoup plus tard que j'ai appris qu'en fait, elles étaient dans les livres, elles étaient écrites. Et en plus, on pouvait raconter des histoires, on pouvait en vivre. Ah, bah, tiens. Alors, pour moi, c'était vraiment une découverte. Allez, mon parcours personnel, donc, c'est vraiment. Je suis né à Binche. Et donc moi, j'ai entendu ces histoires...
À Binche en Belgique, pour ceux qui ne connaîtraient pas la Belgique.
Pour ceux qui ne connaîtraient pas la Belgique, Binche, Belgique, Wallonie, Hainaut. Et donc je suis né là et j'ai entendu ces histoires-là tout petit. Et c'est au retour au pays, régulièrement, mes parents nous emmenaient là-bas en Algérie, que je les ai entendus là-bas, ça résonnait. Et j'ai grandi et puis j'ai eu le désir de devenir acteur-comédien. Et je suis monté à Bruxelles et là, j'ai suivi une école de théâtre avec M. Lassad qui est... C'était, pour ceux qui connaissent, un professeur à l'école Jacques Lecoq à Paris et qui a été un bras droit et qui a fondé son école à Bruxelles. Et lui, dans son parcours de formation, il a un style qu'on appelle mime-conteur. Ça veut dire qu'on raconte des histoires et en même temps, on illustre l'histoire et on les joue. Donc ici, donc, petit à petit, moi, dans mon travail, j'ai toujours... comme comédien, était impliqué dans des projets où il y avait des contes, des rois, des princesses, des choses comme ça. Puis je me suis dit un jour, mais allez, pourquoi pas vraiment faire, raconter ces histoires. Alors j'ai essayé ça, moi j'avais 21 ou 22 ans à Avignon, ça a très bien marché, puis j'ai mis un peu de côté, j'étais pris dans mon travail de comédien, et puis ça a fait son chemin, et j'ai reparlé avec ma mère, mon père, mes cousins, et puis voilà, j'ai commencé à raconter des histoires que je raconte là depuis quelques années, et qui sont appréciées, qui sont écoutées. Voilà, ça je te résumerai un peu le parcours comme ça.
Comment écrivez-vous, si on entre un peu dans votre atelier d'écrivain de contes, comment choisissez-vous et comment travaillez-vous avant de vous présenter en scène avec un conte ? Quelle est la part de l'artisanat auquel vous devez vous livrer sur le texte et sur la manière de le dire ? Comment ça se passe ?
Alors, c'est vrai que bon, les contes kabyles sont, il y a un nombre incalculable de contes. Il y a beaucoup de contes qui me plaisent, mais comment choisir ceux que je vais raconter ? C'est pas évident. Alors c'est vraiment ceux qui résonnent en moi, ceux qui résonnent en moi et que je me dis, tiens, celui-là, j'ai envie de le raconter. Alors je le lis, je l'écoute, je le réécoute, je demande à mon père de me le raconter à ma mère, et puis avec ça, je l'assimile, et puis j'essaie de retrouver l'histoire, le fil conducteur, et moi, je le réécris. Je le réécris, pourquoi ? Parce que j'essaie de trouver le rythme, la structuration, l'écriture, comment ça fonctionne. Parce qu'un conte raconté autour du feu ou sous le soleil ou sous l'éclairage de la lune dans une cour d'une maison traditionnelle kabyle, c'est pas raconter un conte en scène. En tout cas, pour moi, je fais une différence, une très grande différence. On passe dans un autre espace. Ma mère, ça ne lui viendrait pas l'idée de raconter un conte en scène. Par contre, elle adore les contes, elle adore les raconter. Alors quand je fais ce passage-là, alors là, je travaille sur une structure. Qu'est-ce qui se passe ? Premier acte, deuxième acte, troisième acte, quels sont les rythmes, les différents personnages ? Est-ce que je laisse la place à tous les personnages ? Est-ce que l'histoire est clôturée ? Et tout ça. Donc je fais vraiment tout un travail d'écriture, de partition musicale aussi. D'essayer d'entendre que les rythmes sonnent. Alors il faut savoir que moi, les histoires, je les ai entendues en kabyle. Donc je dois les raconter en français. Mais avec la particularité dans l'histoire que vous avez entendue, c'est que je fais les deux. Je compte en kabyle et je compte en français. Et au départ, un petit peu de kabyle, et puis à la fin, carrément, des phrases en kabyle, et le public comprend, il suit. Donc j'essaie vraiment de construire pour ça, donc de faire vraiment résonner l'histoire dans sa parole, dans laquelle elle a été racontée. Donc c'est pour ça que ça me demande une réécriture, vraiment. Et aussi, une poésie, parce qu'en kabylie, on raconte aussi des poèmes, et donc c'est avec des phrasés rythmiques, et des poèmes que ma mère connaît par cœur, et qui ont des significations profondes. Et donc, dans la réécriture, j'essaie de retrouver ces rythmes, ces phrasés et ces consonances poétiques. Voilà. Mais je n'appuie pas dessus, vraiment, que j'essaie de les faire passer comme une parole normale, et pas du tout comme une parole poétique, comment dire, je ne sais pas si je suis...
Déclamatoire, ça vous ne faites pas dans le débat, voilà. Déclamatoire.
Ce n'est pas dans le déclamatoire.
J'aimerais qu'on revienne à votre maman. Est-ce qu'elle a assisté et que vous a-t-elle dit au spectacle que vous donnez sur scène, alors qu'elle est dans une autre tradition d'oralité, de transmission des histoires?
Alors, comme tous les mamans, hein, toutes les mamans kabylades adorent leur fils, donc elle a été heureuse, vraiment joyeuse de m'entendre, et donc à chaque fois, elle est là, elle apprécie et émue à ce que je fais. Mes frères et sœurs aussi, qui ont entendu ces histoires-là, aussi, mon père assiste à ça. Alors, je suis le seul parmi la fratrie, frères et sœurs, à raconter. Les autres connaissent ces histoires, mais ne racontent pas. Donc, je crois qu'ils sont très émus, ça leur plaît. Et donc, en Kabylie, au pays, les gens savent que je raconte des histoires, et donc, ils sont aussi très touchés, ils vont sur mon site internet, ils écoutent, ils se tiennent au courant. Et
vous n'êtes pas allé donner des spectacles là-bas en Kabylie?
Non, pas encore, mais là cet été, dans 10 jours j'y serai, donc le 20 juillet j'y serai, et puis bon, voilà, je vais essayer de mettre en place quelque chose pour un accueil, et puis peut-être avec un soutien ici au niveau de la Belgique pour pouvoir y aller, faire soit des spectacles, soit refaire un travail de collectage et essayer d'approfondir la chose.
Alors, en regardant, à nouveau, je n'ai pas vu tout l'ensemble du spectacle que vous donnez à Chini, mais j'ai vu un échantillon. J'ai eu le sentiment dans l'histoire que vous racontiez qu'à l'instar d'autres conteurs qui ont un accompagnement musical, chez vous, dans vos spectacles, c'était la langue kabyle qui était la musique.
Mmh. Oui, oui, oui. Effectivement. Ça vient peut-être d'effectivement de la particularité de la langue, peut-être aussi de la particularité du rythme, et puis comme disent les autres conteurs qui sont en Belgique, ils me disent mais tu parles vite au début, la première minute on a difficile, tu parles vite, et je dis écoutez, mais vous allez écouter la musique kabyle, vous allez voir les femmes danser, le rythme est très rapide, donc on a aussi cette particularité dans notre expression, on va très 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 vite, et donc avec une rythmique aussi dans la parole.
Pour terminer l'entretien, vous me redites l'incantation que le grand-père dit à sa fille pour faire ouvrir la porte et ne pas se laisser confondre par l'homme en kabyle.
Alors la fille elle dit Thabour Tajeddi Zenkini Fiziri, ouvre-moi la porte grand-père, c'est moi Fiziri. Alors le grand-père il répondait, fais sonner tes petits bracelets, oh ma fille. Et Fiziri elle faisait sonner ses bracelets d'argent, le grand-père il tirait sur la ficelle, la porte s'ouvrait, Fiziri entrait, la porte serait fermée.
Voilà. Merci, merci Fahem Abbès, et puis alors je recommande à tout le monde d'aller voir vos spectacles, que ce soit au Québec, en Belgique ou bientôt en Kabylie. Merci beaucoup.
Merci.